Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans OST, l'émission qui vous parle de jeux vidéo, mais surtout de musique de jeux vidéo. On est ensemble pendant un peu moins d'une heure et comme toujours, Emeline est avec moi en studio. Bonjour Emeline.
Bonjour Romain.
Alors aujourd'hui, on va vous parler d'une saga du jeu vidéo assez récente, mais qui est désormais assez connue. Ça commence en 2007 sur PS3 et Xbox 360, et c'est la saga Assassin's Creed.
Voilà, et Assassin's Creed, c'est sans doute le jeu dont vous avez entendu parler récemment, mais pas sous forme de jeu, mais comme adaptation au cinéma, en fait, qui va sortir dans pas très longtemps avec le beau Michael Fassbender. Allez voir donc. La saga donc, du jeu vidéo est sortie il y a presque 10 ans maintenant et aujourd'hui nous analysons la bande originale du deuxième volet de la saga qui lui est sortie en 2009, 2 ans plus tard. Alors c'est un jeu qui a été développé par le studio Ubisoft Montréal qui est sans doute l'un des plus gros studios au monde. Voilà, et Romain, tu peux peut-être nous raconter un petit peu l'histoire de ce jeu.
Alors Assassin's Creed, c'est une histoire assez compliquée parce qu'il y a maintenant plus de 8 épisodes à peu près en tout et pour tout. L'histoire commence en fait assez simplement avec un jeune homme qui s'appelle Desmond Miles et qui se retrouve en fait dans un laboratoire scientifique assez étrange et secret de la société Abstergo. Et en fait, à ce moment-là, on va lui proposer, grâce à une machine révolutionnaire qui s'appelle l'Animus, de revivre en fait la mémoire de ses ancêtres. Donc dans le tout premier Assassin's Creed, on se retrouve à l'époque des croisades en Terre Sainte avec donc son ancêtre qui s'appelle Altaïr. Et là donc Assassin's Creed 2, le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la suite de cette histoire, c'est-à-dire qu'on continue à jouer Desmond Miles mais aussi un nouvel ancêtre qui s'appelle cette fois Ezio Auditore, et on se retrouve donc à Florence fin du 15e siècle en 1476. Donc là, on a un changement d'époque assez radical et justement c'est comme ça qu'on va pouvoir se retrouver en pleine Italie à la Renaissance dans Assassin's Creed 2.
Cette petite mise en bouche musicale est un bout de la bande originale du jeu Assassin's Creed 2. Et donc le compositeur de cette bande originale s'appelle Jesper Kidd. C'est un compositeur danois qui est actuellement qui est installé en Californie. Il est connu pour son travail pour les jeux Hitman par exemple, ou le jeu Ken & Lynch, Borderlands aussi, et surtout maintenant pour les 4 premiers jeux Assassin's Creed.
Alors quand on vous parle des 4 premiers jeux Assassin's Creed, c'est assez compliqué parce qu'il y a eu plein de numéros et plein de titres en fait. Alors, les 4 premiers jeux en fait, c'est le premier Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, jusque là tout va bien. Mais ensuite il y a 2 jeux suivants qui ne sont pas numérotés, c'est-à-dire que ce n'est pas Assassin's Creed 3 et 4, mais c'est quand même des jeux Assassin's Creed et en fait on poursuit l'histoire de Ezio Auditore. Donc voilà, c'est pour ça, au niveau de la numérotation c'est un peu compliqué. Donc Jesper Kidd, il a bien fait les 4 premiers jeux, donc Assassin's Creed 1 et 2, Assassin's Creed Brotherhood et Assassin's Creed Révélation. C'est les quatre jeux dont il s'est occupé. Après, il a passé la main à un autre compositeur. Du coup, on enchaîne tout de suite avec l'analyse musicale de la bande originale d'Assassin's Creed 2 et on commence tout de suite avec un premier morceau qui s'appelle Ezio's Family.
Thank you. Vous venez donc d'entendre Ezio's Family, qui est extrait de la bande originale d'Assassin's Creed 2. Alors là, vous avez retrouvé un petit peu la musique qu'on avait juste avant dans notre transition, avant de vous parler du compositeur. En fait, c'est normal, c'est le thème du jeu, en fait, le thème d'Ezio, de notre personnage, qui est chanté à la voix, par une voix aiguë assez pure, et qui est très reconnaissable, en fait. On a aussi des cordes frottées dans ce morceau qui ne sont pas forcément tout le temps utilisées dans les bandes originales de jeux vidéo. Et là, en fait, ça rappelle la musique de film, ça apporte un petit peu plus de profondeur qu'on pourrait avoir. Et ensuite, on a pas mal d'utilisation de sons électroniques, de sons retravaillés, en fait. Tout ça, c'est très présent dans cette bande originale qui donne un côté plus moderne, en fait. Et vous avez aussi la guitare électrique. Alors là, pour du moderne, vous avez du moderne. Et même, ça donne un son un peu plus sale, quoi, un petit peu plus rock'n'roll.
Le morceau Ezio's Family, c'est un peu le morceau emblématique en fait du jeu. C'est-à-dire que si on vous parle d'Assassin's Creed 2, en fait, c'est sûrement le premier morceau qui va vous venir en tête parce que c'est en fait le morceau qui représente le thème d'Ezio, notre personnage principal, qui est un personnage assez classe, assez ténébreux, assez charismatique. Donc du coup, la musique est en conséquence de ça. Elle incarne très très bien en fait le personnage avec toutes les problématiques qu'il peut y avoir, toutes les tensions familiales, parce qu'on en a très peu parlé, mais du coup au tout début d'Assassin's Creed 2, en fait Ezio Auditore c'est un jeune noble de Florence qui est un peu insouciant et volage et qui va suite à un drame familial va commencer à aller sur la voie des assassins. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on ressent bien dans ce thème-là. Voilà. Après, il y a quelques soucis, on va dire, entre guillemets, dans le morceau. C'est que vous l'avez sûrement remarqué, pardon. C'est que c'est assez répétitif. C'est-à-dire qu'il y a un thème, une mélodie qui est répétée à l'envi pendant 4 minutes. Et après, le compositeur, donc Jasper Kidd, a trouvé un moyen quand même de tromper un peu l'ennui, qui est de faire un crescendo orchestral, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des morceaux, les instruments s'accumulent, ce qui fait que ça fait monter un petit peu la tension, en fait, autour du morceau. Le problème, c'est que bon, sa méthode, c'est une méthode que tout le monde connaît et qui est utilisé maintenant depuis pas mal d'années, voire de siècles. Donc voilà, c'est une méthode un peu bateau, on va dire, pour le faire, mais le contrat est rempli, le thème est joli, on le retient et il marche bien, surtout pour notre héros. Donc ça va, on lui en veut pas, j'espère. On continue notre voyage musical donc à Florence et cette fois-ci, on va danser un petit peu.
Dans ce morceau un petit peu enlevé, on retrouve la guitare qui a un son folk. Alors ça doit être une guitare folk qui nous rappelle aussi le son du luth, qui est quand même un des instruments les plus utilisés à la période de la Renaissance en musique, et donc particulièrement en Italie aussi, parce que c'est quand même une période très enrichie dans ce pays. On a aussi le violon soliste qui se retrouve et donc l'ensemble de violons qui retrouve ensuite le soliste. Et ces instruments jouent en fait de manière folk. Alors vous avez la manière classique qui est de jouer, voilà, comme dans tous les morceaux qu'on pourrait entendre dans la musique dite savante. Mais vous avez aussi la manière folk où on va d'une note à l'autre en faisant des petits glissés, où on a un jeu un petit peu plus libre. Et toute cette façon de jouer, en fait, ça rappelle la musique ancienne.
Alors, la tarentelle, c'est parce que c'est le nom de la danse, en fait, c'est le nom de du morceau, c'est Florence Tarantella, donc, qui est en hommage à la danse, donc la tarentelle, qui est une danse du sud de l'Italie, en fait, et qui s'appelle comme ça parce que les gens dansaient à ce moment-là pour essayer de guérir les blessures de quelqu'un qui s'est fait mordre par une tarentule, par la vilaine bébête araignée. Donc, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Au niveau du morceau en lui-même, il est assez intéressant parce qu'effectivement, il y a ce côté ancien qui ressort pas mal. Après, il y a quand même un problème, on va dire, entre guillemets, au niveau de l'authenticité. C'est-à-dire qu'on sent bien que c'est pas vraiment un morceau du 15e siècle italien, que c'est pas dans la pure tradition italienne, on va dire. Donc voilà, c'est un peu dommage à ce niveau-là, quand on a eu des BO comme celle de Red Dead Redemption, par exemple, où le travail du détail est vraiment mis à fond. Là, on voit que c'est un peu plus léger, on va dire, au niveau du travail historique. Après, ce qui est intéressant, c'est que le luth, donc, qui est très représentatif de cette période-là, c'est aussi un instrument qu'on va retrouver dans le jeu, parce que, en fait, c'est l'instrument que tous les bardes que vous allez croiser dans les différentes villes italiennes vont jouer devant vous. C'est-à-dire que vous êtes un assassin, vous êtes censé faire des trucs dans l'ombre, très mystérieux, etc. Et là, il y a trois mecs qui arrivent avec leur luth et qui viennent chanter autour de vous. Donc, niveau discrétion, on a connu mieux. Donc, tous les joueurs d'Assassin's Creed 2 les connaissent bien et les détestent tous parce que ils peuvent ruiner une mission en deux couplets avec leur luth. Donc, voilà, c'est aussi un instrument qu'on retrouve dans le jeu et qui est vraiment important finalement et qu'on croise très souvent en fait dans les rues de la ville. On va continuer notre petit voyage à Florence, mais cette fois-ci, on va se retrouver comme à la maison.
Le morceau que vous venez d'entendre s'appelle Home in Florence, qui donc est extrait toujours de la bande originale d'Assassin's Creed 2 qu'on analyse avec vous aujourd'hui. On a donc trois parties dans le morceau que vous venez d'entendre dont découlent trois ambiances en fait. C'est tout en mode majeur, c'est assez joyeux et assez doux, mais il y a quand même trois choses très différentes. Donc on commence déjà par une mélodie rapide jouée par deux instruments. D'abord un seul instrument qui a un son électronique assez étouffé. Et puis s'ajoute ensuite un autre instrument de type clavier, on va dire, qui double le premier. Ensuite, vous avez une deuxième partie, et là, c'est des cordes frottées qui arrivent, nos fameuses cordes frottées, qui font plus musique de film. Et là, elles jouent toutes ensemble, une polyphonie assez lente. C'est vraiment autre chose. Et puis, on finit avec une dernière ambiance qui n'a rien à voir, avec un son qui ressemble à des cordes pincées ou un clavier comme un clavecin, en fait, où on entend vraiment les cordes se pincer sur le clavecin, qui est quand même un des instruments phares de la musique Renaissance, je tiens à le souligner. Et puis, cet instrument, en fait, accompagne la voix légère et pure qu'on entend depuis le début. Alors, elle l'accompagne même pas, en fait, elle joue avec elle à l'unisson. Et ça donne une ambiance assez apaisée, en fait.
C'est assez intéressant comme morceau parce que donc j'ai dit on sentait comme à la maison parce que le titre du morceau c'est Home in Florence, donc c'est vraiment quand on est chez soi et c'est assez intéressant parce que enfin à part quelques notes dont tu as parlé là qui peuvent rappeler un petit peu, il y a rien qui nous dit dans la musique que, historiquement géographiquement on est en Italie à la fin du 15e siècle. Donc c'est assez étrange en fait, c'est pas du tout connoté on va dire de cette époque-là, et en même temps ce qui est encore plus étrange je trouve c'est que ça marche, c'est-à-dire que moi c'est une musique que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup entendre et même si historiquement ça a l'air un peu à côté, en fait ça marche parce qu'il y a quand même le sentiment qui domine de quelque chose de doux, de confortable, qu'on sent à l'aise et on sent en sécurité, donc c'est assez intéressant ouais.
Oui, en plus, la polyphonie par les cordes frottées, ça fait un mot très savant, mais en fait, ça date pas de cette époque-là du tout. C'est vraiment plus tard qu'on aura toutes ces cordes ensemble qui joueront, et c'est pas avant le romantisme qu'on aura ça. Et puis, en plus, on retrouve après, dans la première partie, des sons électro, et là, vraiment, on a quelque chose qui sort complètement de l'ambiance de la Renaissance, et en fait, ça nous rappelle déjà que en fait, c'est pas la vie réelle, quoi, ce qu'on vit à ce moment-là. On est dans l'animus.
Ouais, il faut pas oublier, voilà, qu'en fait, toutes les musiques, on les entend, enfin, toute cette ambiance italienne, etc., on la ressent à travers une machine. Donc, c'est assez intéressant de voir que pourquoi il y a autant d'électro qui se baladent, et vous allez le voir dans toute la bande originale, c'est aussi parce que on vit ça à travers une machine. Faut pas oublier qu'on ne joue pas vraiment quelqu'un qui est à la Renaissance. On joue les souvenirs de cette personne-là et à ce moment-là, on les vit à travers une technologie qui est l'animus. On continue, du coup, et cette fois, on passe de Florence et on arrive à Venise. Et à Venise, on est là pour la bagarre.
Alors là, il y avait quand même beaucoup de percussions présentes en fait dans ce morceau qui s'appelle Venice Fight. Donc comme disait Romain, la bagarre.
Ouais, la bagarre.
Donc ces percussions en fait sont assez lourdes et assez graves au début. Elles sont très espacées au début, puis petit à petit ça accélère. On a vraiment quelque chose qui nous presse, qui s'impose à nous. On a aussi des percussions plutôt aiguës et on a vraiment, ça donne quelque chose de très rythmé et très rapide en fait. Et ensuite, on a la guitare électrique qui revient avec des cordes très lointaines. Les cordes frottées, cette fois, elles ont pas voix au chapitre. Hein. Elles sont loin derrière, comme des gémissements. Et c'est la guitare électrique qui prédomine. Donc, on a vraiment cette sensation de rapidité et puis quelque chose d'assez alourdi quand même.
Oui, voilà, moi c'est un problème que j'ai un peu avec le morceau, c'est que je trouve ça assez lourd et justement, moi j'arrive pas à sentir la rapidité. Je doute pas que le rythme soit assez rapide, mais moi je n'arrive pas à avoir beaucoup de dynamisme en fait dans cette. C'est quand même la musique est là pour les combats, donc là on est censé être actif vraiment et pas juste patienter pour pouvoir assassiner sa cible. Là, il faut vraiment être dans l'action. Ça y est, on a été repéré, il y a des gardes qui font sur nous, et je trouve pas ça que ça nous emmène et que ça nous emporte assez. Cette musique m'a fait penser à une autre musique qui, je trouve, marche beaucoup mieux. Ça, cette fois, c'est une musique d'un film qui est dans Bon baiser de Bruges. C'est une musique qui est composée par Carter Burwell, qui est le compositeur des frères Cohen d'habitude, et là qui nous a donné un morceau. C'est pendant une course-poursuite. Je vous fais écouter un petit extrait et on reparle après un peu de la différence entre les deux morceaux.
Oui, et ce qui est intéressant dans le morceau, Romain, que tu as choisi de nous faire écouter là, qui donc n'est pas de Jasper Kidd mais de Carter Burwell, c'est qu'on retrouve quand même les éléments qu'a utilisé Jasper Kidd dans son Venice Fight, avec la guitare électrique, des percussions, quelque chose d'assez rapide et lourd en fait, mais il n'y a pas que ça. Et je pense que c'est ça que tu as remarqué et qui est toi qui te plaît après dans Shot Out, cette
Ouais,
musique-là.
après ce qui est intéressant, c'est que, enfin, surtout là il y a la batterie qui est vraiment qui est mise en avant. Voilà, c'est ça l'élément peut-être qui manque un peu dans la musique de Jasper Kidd, mais là la batterie est super dynamique, elle est très directe, donc elle nous met directement dans l'ambiance, je trouve, et du coup ça frappe, c'est plus incisif comme musique. Et encore une fois, c'est peut-être un peu ce qu'a voulu faire Jasper Kidd, un espèce de mishmash, on va dire, enfin
De compromis.
de compromis pour pas vraiment aller dans le rock'n'roll, parce qu'il a déjà mis des guitares et il s'est peut-être dit, bon, la guitare électrique c'est peut-être déjà bien assez, et puis je vais pas rajouter maintenant une batterie, pourquoi pas une basse tant qu'on y est.
Peut-être.
Donc peut-être qu'il s'est dit ça et qu'il voulait garder un petit peu quand même d'ambiance et pas foutre une batterie, ce qu'on peut comprendre. Mais du coup, moi je trouve que le morceau manque un peu de punch. Il est pas mauvais du tout, hein, mais c'est juste que voilà, moi je trouve que pour une musique de combat,
De
j'aurais,
bagarre, ouais.
voilà, c'est pour la bagarre quand même, il faut mettre les moyens. Bon, on va arrêter maintenant sur ce morceau et on va laisser notre petite Jasper un peu tranquille. Pour le morceau suivant, juste un petit conseil, c'est écoutez bien et essayez de penser à un film historique qui serait tourné et réalisé par un certain Ridley Scott.
On vient donc d'entendre Flight Over Venice et pas une musique de Ridley Scott. Pourtant, c'est vrai que moi j'ai une bonne petite pensée pour le film Gladiator, un de mes films préférés, avec une bande originale fantastique, hein, on peut pas le nier, de Hans Zimmer. Je précise aussi parce que c'est important. On a l'utilisation des cordes frottées, on a l'utilisation des guitares et puis des percussions, mais aussi la voix aiguë. Et si vous mettez tout ça dans un shaker, vous secouez un petit peu et vous avez quand même quelques morceaux de Gladiator et surtout vous avez vraiment l'ambiance, le cœur de ce qui a été cherché par Hans Zimmer sur certaines des musiques de Gladiator en fait.
Donc vous voyez un guerrier caressant les champs de blé tout doucement avec une voix aiguë en fond qui chante. Oui, donc voilà, évidemment, ça fait penser un peu à ça. Pour ce qui se passe dans le jeu à ce moment-là, dans Assassin's Creed 2, là, on est en fait, donc c'est Flight Over Venice, donc vol au-dessus de Venise, ce qui paraît assez étrange pour le 15e siècle quand même. Mais à ce moment-là, en fait, on est en train de tester une des inventions de l'ami, l'un des amis du héros, qui n'est autre que Léonard de Vinci. Et donc qui a fait une construction et qui a fait un premier prototype d'engin volant qui ressemble un peu à un deltaplane, on va dire maintenant. Et donc vous allez survoler Venise grâce à cette invention pour pouvoir vous infiltrer dans un bâtiment hautement gardé, évidemment. Et donc vous allez là, c'est la musique qui est pendant votre vol au-dessus de cette belle ville italienne. Et donc voilà, la musique est plutôt assez représentative justement de ce côté aérien, de ce côté très léger qui est vraiment sympa et là qui marche très très bien avec le jeu. Pour le prochain morceau, on l'a divisé en trois extraits Emeline, tu vas commencer directement les explications pour le premier extrait. Allons-y.
Voilà, parce que ça va vous permettre un petit peu de comprendre ce qui se passe dans les extraits qu'on va vous passer après. Donc là, dans le tout premier extrait de la musique qui s'appelle Dreams of Venice, vous commencez d'abord par des cordes frottées dans le grave de leur instrument, ce qui fait vraiment un tapis sonore. Et la voix aiguë qui ressort, et là vous retrouvez en fait une sorte de thème. On a parlé du thème d'Ezio, mais en fait il n'est pas vraiment le seul, il y a aussi le petit thème qui ressort de cette voix quand elle chante dans Home of Florence, parce que voilà, c'est, a priori c'est une femme, hein, voilà, aussi aiguë que ça. Et donc cette voix aiguë sort de ce tapis sonore. Ensuite arrive le chant qui pourrait être chanté par un moine, en tout cas, ou du chant grégorien, en tout cas ça rappelle le chant grégorien, avec un Agnus Dei. Et ça se tuile en fait avec le thème qui est accompagné, tout ça est accompagné par les cordes qui cette fois jouent en pids.
On enchaîne avec un deuxième extrait directement de Dream of Venice. Donc là, vous avez entendu, il y a un petit fondu et une petite descente, et on va remonter tout de suite. Et ça tombe bien parce que ça illustre en fait ce qu'on fait beaucoup dans le jeu Assassin's Creed, c'est monter au-dessus des monuments. Donc ça, c'est la musique que vous entendez quand vous synchronisez, c'est-à-dire que là, vous êtes tout au-dessus d'un monument, que ce soit de Venise ou de Florence, et là, vous synchronisez, donc la caméra se met à tourner autour de notre personnage, ce qui vous laisse voir toute la ville autour de vous, et donc au-dessus de ce point d'observation, vous pouvez explorer un petit peu en fait le quartier, ça vous révèle les différentes activités qu'il y a dans le quartier, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez évidemment faire un saut de la foi super classe,
Ouais.
et donc vous sautez tout au-dessus du bâtiment et vous atterrissez sur une botte de paille qui est là exprès pour vous, évidemment, pour que vous fassiez pas mal. Parce que des fois, vous tombez vraiment de très haut. Et donc, voilà, ça, c'est une musique iconique que tous les joueurs connaissent d'Assassin's Creed, parce que c'est une des activités préférées des joueurs, il faut le dire. Dès qu'on arrive dans une nouvelle ville, un nouveau quartier, le premier truc qu'on fait, c'est chercher le point le plus haut pour pouvoir y grimper et pouvoir faire la synchronisation. À savoir que donc, c'est dans tous les jeux Assassin's Creed, mais que le thème change à chaque fois. Et donc à chaque fois, il y a une petite musique qui vous rappelle l'action que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est vraiment voilà une des actions préférées des joueurs.
Et comme tu le dis, Romain, en fait, c'est vraiment super agréable de faire ce moment-là parce que le gameplay est fait pour que ce soit facile de monter sur les bâtiments, donc ça se fait vraiment très facilement. Et en plus, arriver au-dessus, enfin vraiment, on associe ce son, cette musique, à une sensation qui est très très agréable et on s'en lasse pas de la réécouter.
On passe au troisième extrait, du coup, tout de suite.
Voilà, et là, cette fois, on va entendre de la harpe qui accompagne à nouveau nos deux voix, la voix du moine, on va dire, et la voix aiguë, qui sont d'ailleurs à un moment donné tous les deux à l'unisson. Alors cet extrait-là de Dreams of Venice représente vraiment quelque chose de très doux. On sent sécurité, un peu comme dans la maison à Florence d'ailleurs, mais parce que justement on reprend le thème de la maison de Florence et donc on a ce côté sécuritaire qu'on retrouve dans une maison quand on est chez soi. Et d'ailleurs le choix de l'instrumentation aussi donne cette sensation. C'est pas un instrument blindé de notes dans tous les sens, avec la guitare électrique, les percussions, on n'a que des cordes frottées au loin, de la voix et de la harpe, c'est assez délicat. Et aussi, on a le mode de ré. Alors, le mode de ré, vous prenez d'habitude, on parle de do à do, on fait la gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et là, cette fois, on part du ré qui va vous faire une couleur très très différente, ce qui va faire ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Et ça n'a rien à voir, on n'a pas les mêmes points d'impact, et du coup, ça donne une couleur assez intéressante et qui est très rassurante.
On enchaîne maintenant, hein, tout
Oui,
de suite.
maintenant que j'ai chanté un petit peu.
Voilà, après toutes ces vocalises, n'est-ce pas? Et là, on va enchaîner avec une comparaison entre deux morceaux qui sont assez particuliers en fait dans la bande originale d'Assassin's Creed. Donc là, on va vous faire un morceau du premier Assassin's Creed et ensuite du deuxième. Ce sont deux morceaux assez uniques parce que là, on n'est plus dans le moment historique, on est dans le monde réel en 2012 à ce moment-là dans le jeu. Donc c'est deux morceaux qui nous parlent en fait, enfin qui nous évoquent l'animus. Donc ça, c'est le morceau Access the Animus, qui est tiré de la première bande originale de Assassin's Creed, d'Assassin's Creed premier du nom, je veux dire, et donc qui est aussi composé par Jasper Kidd. Et on enchaîne tout de suite avec Animus 2.0. Voilà, un morceau donc assez particulier dans la bande originale. Là, ça détonne un peu avec ce qu'on a fait écouter avant. Donc ça, c'est Animus 2.0 que là vous venez d'écouter. Le morceau d'avant, c'est Access the Animus, qui nous parle tous les deux de la machine en fait qui vous permet de revivre les mémoires et les souvenirs de vos ancêtres. Animus 2.0, c'est parce qu'en fait vous changez de machine entre les deux jeux. Vous êtes dans une première machine et ensuite vous êtes dans une machine qui a évolué, donc qui est 2.0. Le point commun entre les deux morceaux, c'est deux morceaux assez étranges qui vraiment détonnent, qui sont assez menaçants, avec une atmosphère très inquiétante, une structure très bancale au niveau du morceau et donc avec pas mal aussi d'électronique. À ce moment-là, un peu moins dans le premier morceau, il y a justement, il y a un peu plus d'instruments, on va dire, et ça paraît un peu plus stable. Mais dans le deuxième morceau, là vraiment, on est dans du pur électro, très étrange. Et justement, l'Animus 2.0, donc cette version évoluée, va aussi plus loin dans ce côté déstructuré et chaotique qu'on peut entendre.
Et du coup, assez menaçant en fait, parce que avec les murmures et les voix au loin, on se dit vraiment qu'il y a un truc qui tourne pas rond. On ne sait pas trop vers où on creuse d'ailleurs dans cette machine, et on ne sait pas trop ce qui est possible de faire finalement. Et vous avez d'ailleurs un truc très inquiétant là qu'on retrouve dans The Animus 2.0, c'est les clusters. Vous les avez en fond, alors on entend surtout les murmures et les voix, mais en fait dans le fond on a des cordes frottées ou des sons électroniques, en tout cas quelque chose qui est très retravaillé, mais ça fait un son global très assez laid en fait, parce que c'est comme si vous preniez le clavier d'un piano et vous preniez un bras et vous appuyez sur les touches comme ça sans vous poser de questions, et ça va faire un son. Vous pouvez essayer, hein, ça va faire un son assez moche et surtout très inquiétant parce que toutes les notes se touchent et ça crée des dissonances. On appelle ça un cluster, et d'habitude, c'est des compositeurs contemporains, par exemple comme Ligeti, qui utilisent ce genre de procédé, et ça nous donne un truc super flippant.
Oui, ça marche très bien pour ce genre d'effet. On en a terminé maintenant pour l'analyse musicale de la bande originale d'Assassin's Creed 2. Enfin presque, parce qu'on va maintenant passer à la conclusion. Bon, allez, pour faire une petite conclusion sur la musique d'Assassin's Creed 2, bon, j'ai un peu passé mon temps à taper sur les morceaux. Enfin, non, c'est pas tout à fait ça. Mais si on veut être méchant, on dit juste que, en gros, c'est une bonne musique d'ambiance. Mais ça, c'est vraiment être assez mauvaise langue avec le travail de Jasper Kidd. Pourquoi j'ai envie de dire ça? Parce que finalement, il y a très peu de musiques qui sont reconnaissables. Il y a un thème ennemi, c'est-à-dire qu'il y a le thème d'Ezio qui est vraiment vraiment mis en avant et qui rend du coup notre personnage iconique. Ça, c'est super bien fait du coup, parce que dès qu'on entend cette musique-là, on sait qu'on parle de notre personnage. Ça leur présente très très bien. Mais le problème, c'est que du coup, l'autre partie de la bande originale en pâtit un petit peu, c'est-à-dire que reste un peu dans l'ombre en fait de ce thème. J'ai dit un thème ennemi parce qu'il y a aussi le thème de la maison à Florence que l'on retrouve dans certains morceaux. Donc ça, c'est quand même un truc qu'on peut noter, mais le reste du coup est assez discret, se fait vraiment dans l'ombre. Donc si je vous demande votre top 3 des musiques préférées d'Assassin's Creed 2, il y a sûrement le thème d'Ezio qui va arriver en première position. Peut-être en deuxième vous allez trouver un autre morceau, mais au troisième vous allez avoir du mal à trouver un morceau reconnaissable en fait que vous pouvez chanter à tue-tête. Donc c'est un peu le problème, et c'est un peu ce qu'on peut reprocher d'ailleurs au style de Jasper Kidd, qui est un peu passe-partout et qui du coup n'a pas vraiment sa patte à lui.
Et du coup, comme Romain a fait le méchant flic, moi je fais le gentil flic et j'en profite. Parce qu'en fait, finalement, comme disait Romain, là on dit des critiques, mais parce que c'est intéressant aussi de voir ce qui n'a pas marché. Mais en fait, il y a des choses qui ont très très bien marché pour le coup. Et surtout, il y a pas un coup de génie, il y en a d'autres qui l'ont fait, mais. Par exemple, dans Red Dead Redemption, on en reparle aussi. Dans Red Dead Redemption, il y avait une note qui restait là tout le temps en fond, et toutes les musiques partaient de cette même note. Et ben là, finalement, dans Assassin's Creed, on a découvert avec Romain que, en fait, ça se jouait toujours autour du mode de ré. Donc, je voulais chanter tout à l'heure. On a cette note-là comme point de repère. Alors, bien sûr, ça va moduler, comme on dit, on va changer de temps en temps d'une note à l'autre, mais on va toujours revenir sur le mode de ré. Et ça donne une couleur générale, un fil conducteur au morceau qui est assez fantastique. Et bien sûr, sauf dans l'animus et dans la vraie vie, en fait, là par contre, on a beaucoup moins de musique et ça donne aussi une autre ambiance.
Oui, c'est intéressant de voir le décalage entre les deux ambiances quand vous jouez. Maintenant qu'on a parlé beaucoup de la musique du jeu, on peut parler peut-être un peu du jeu en lui-même, de ce qu'on en a pensé. Alors, Emeline, tu as aimé Assassin's Creed 2?
Moi, j'ai adoré Assassin's Creed 2. Déjà, le premier, j'avais trouvé ça génial. Et le 2, là, c'est incroyable, quoi. Le gameplay est top, justement, pour monter sur tous les bâtiments. Pour courir, il y a un peu moins de bugs que dans le premier et un peu moins que dans les suivants. Donc, on évite de se prendre partout, à part dans les bardes, a priori, et on tape pas dans tout le monde. Et il y a vraiment quelque chose de très fluide et d'agréable à jouer. Et puis bon, on a un assassin qui a la classe, quoi. C'est super bien. Et la musique participe à ça. Mais ça fait partie de mes jeux que je mettrais dans un bon top 5, un top 10 peut-être.
Oui, donc quand même, vraiment un bon jeu. C'est vrai que si on parle d'Assassin's Creed, de la saga, si vous avez suivi la saga, c'est souvent celui qui revient comme le préféré de beaucoup parce que il est considéré un peu comme le meilleur, le plus stable, le plus équilibré et surtout le moins buggé aussi. Et peut-être celui où Ubisoft a pris un peu le temps pour le développer parce qu'on sait qu'après ça va devenir une machine et qu'il y en aura un tous les ans. Donc voilà, là c'est vraiment un bon truc. Si vous voulez commencer la saga Assassin's Creed, même si ça a un peu vieilli, il y a une collection qui va ressortir avec les épisodes d'Ezio. On vous conseille le 2 pour commencer. Le 1, peut-être que c'est un peu daté et c'est pas très grave si vous l'avez pas fait. Franchement, commencer par le 2, c'est un très bon début pour vous lancer dans la saga. Et ben voilà, on a terminé cette fois-ci pour de bon et pour de vrai avec la musique d'Assassin's Creed 2. Et on passe maintenant à notre rubrique favorite et préférée, le niveau bonus. Alors, cette fois-ci, le thème de notre niveau bonus, c'est les remixes. Donc, tous les morceaux qui ont été revisités, tous les classiques du jeu vidéo qui ont été revisités par beaucoup de musiciens indépendants. Il y a même un site spécial qui s'appelle OC Remix. Vous tapez ça sur Google, vous tombez tout de suite dessus. Et c'est une espèce de gigantesque bibliothèque de remix où n'importe qui s'est accaparé en fait les plus grands thèmes du jeu vidéo pour les remettre à la sauce, pour changer de genre complètement ou pour faire un hommage, etc. Donc vous pouvez retrouver tout ça. Et nous, on en a piqué deux dans cette bibliothèque, mais aussi dans d'autres sources parce qu'on commence avec toi, Emeline, et tu vas nous parler d'un YouTuber.
Exactement, qui s'appelle Smooth McGroove, qui est réputé pour sa barbe longue, sa casquette, ses yeux bleus et son chat, et qui chante, qui fait des reprises a cappella avec un son assez retravaillé et qui donne la pêche en fait. Et ben, on vous passe cette musique-là, a priori vous la connaissez.
Voilà, ne nous remerciez pas pour avoir cette musique dans la tête maintenant pendant toute la journée et de pouvoir faire des pa-pa-pa tout au long de la journée et de la semaine. Donc c'est évidemment le thème de Tetris que l'on a tous reconnu, donc qui est à la base une musique populaire russe, hein, n'est-ce pas? Donc c'est pas créé pour le jeu vidéo. Donc voilà, Smooth McGroove avec son chat. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur YouTube. Il y en a beaucoup
Il y en a un tas.
sur plein plein de thèmes très connus du jeu vidéo. C'est à mon tour et cette fois, donc là, on va parler de la communauté OC Remix qui a repris un thème encore une fois d'un très grand jeu très connu et cette fois-ci, donc on s'éloigne de Tetris pour aller vers Zelda et Ocarina of Time. Donc voilà, le thème, c'est la musique de la tempête dans Ocarina of Time, que vous pourrez retrouver. Vous êtes dans un moulin, en fait, et il y a cette chanson qui tourne en boucle. Enfin, la version originale, évidemment. Moi, je suis resté dans le moulin pendant une heure, hein, parce que j'adorais la musique. Et donc là, une reprise vraiment très rock'n'roll, qui, du coup, marche bien. Donc, la musique remixée s'appelle Thunderstruck, qui est évidemment un hommage au groupe australien AC/DC, puisque c'est l'une de leurs chansons phares. Et donc voilà pour le remix de Zelda. Si vous voulez voir d'autres remix et en entendre, il y en a un paquet vraiment sur le site OC Remix qu'on vous conseille grandement. On a maintenant fini, cette émission touche à sa fin.
Voilà.
Donc merci beaucoup, Emeline.
Bah, merci à toi, Romain.
Et ben voilà, nous on se retrouve le mois prochain pour un nouveau jeu vidéo et une nouvelle analyse de bande originale. Un bon week-end à vous sur les ondes de Radio Dijon Campus.
À bientôt.
Salut.